Cozy Computer! Feeling dark and ponder how I'm fit to make the bottom fall to the floor and they all fall down. It goes. Out of the shallow barrage of witch tongue, cobra spit over apocalyptic cult, killer cauldron smoke, stop music, seriously. It goes. Can't stop this groove, looks dark, blew off them locks, relentless raw movement, for the meter that G-spot body rock, connect it. Damn, everything you want, ever did want, we got it, why not come get it together in that hole and watch me drop this cold girl, danger sentence. It goes. Hanging on between and beneath every fragmented figure of speech, time to reverse whenever the beat causes my jaws to call. The screen was ashy red, can't see shit but heads. Even in like planets, out of orbit off the edge of my nexus, ripping the cord that fumbled and all that's ever missed. Draw the cord, kick the chair in your jet. It goes. Trick in a bucket, body of a trick in a bag. And throwing the fire like a bucket, gotta burn it before it goes bad. Too many times been disgusted by the stench of riding such a drag. Get broke by the street like bloodstained glass. Choke on these nuts to the very last. It goes. Serial number, killing machine, fearless domain. You an effort on the filthy sound you're experiencing. It goes.
Salut, bienvenue sur Radio Shad. On est, j'étais trop impatient, alors je l'ai coupé un petit peu avant la fin. La musique c'était Death Grips, c'est la track s'appelle Guillotine. Et c'est une excellente track, un excellent artiste que je vous invite à découvrir si vous connaissez pas, si vous aimez les trucs un petit peu hardcore. Et donc ce soir, on est le 22 février, le jeudi de 22 février 2024. Et on va parler de la Russie, notre grand ennemi officiel depuis toujours, depuis qu'avant qu'on en soit né. Et pour cela, je suis évidemment accompagné, comme chaque jeudi, de Vincent, qui est l'expert en géoéconomie et géopolitique de Radio Chat. Ça va ?
Ça va et toi ?
Ben, ça va super. Ouais, je commence à me sentir un peu plus... Je me suis relaxé en fait, tu vois. Genre, demain, j'ai mon examen final de la piscine de l'école 42 et je suis assez tranquille dans ma tête. Je pense que je sais tout ce que j'ai à savoir. Donc voilà, je le prends tranquille. Je suis bien content. Tout ça pour dire. Du coup, alors pour le sujet de ce soir, comme je suis revenu un petit peu plus tôt que d'habitude, j'ai un peu travaillé le sujet vite fait, et puis j'ai fait des découvertes intéressantes. Je sais pas si t'as vu le dernier. Ouais, j'ai fait. Est-ce que t'as vu le dernier post que j'ai posté là, le truc dans 5 minutes ?
Dans 5 minutes.
Alors, en gros, j'ai fait un post juste là, il y a 5 minutes avant le début de l'émission, où j'ai écrit qu'on allait notamment parler de l'Europe et de à quel point ils nous enculent parce qu'ils importent du charbon par bateau. Et en fait, c'est ça, j'étais en train de me renseigner sur la Russie, sur l'énergie, etc., pour pouvoir interagir avec toi. Et en fait, je me suis tourné vers les émissions de CO2, les machins, tout ça, mais je posais des questions.
Même sur le plan que moi, carrément.
De quoi ?
T'es allé plus loin que moi, carrément, les émissions.
Je veux pas aller jusqu'à là, mais en fait, je me suis concentré sur un sujet particulier parce que j'étais un peu trigger, comme tout le monde, par le poste de la BCE qui disait que Bitcoin, c'est de la merde, etc. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, si je faisais le rapport, je faisais des petits rapports, donc... je trouvais ça très intéressant. Bref, on va forcément... Je vais sûrement, partir dans cette petite direction à un moment donné quand ça s'y prêtera, mais bon, c'est pas le sujet principal. En tout cas, oui, la Russie, l'énergie. Et en fait, c'est un thème qu'on avait abordé plus ou moins plein de fois, mais on n'a jamais fait d'émission, je pense, spécifiquement là-dessus. C'est un truc qu'on avait fait.
Oui, c'est évoqué, mais voilà, sans forcément grands approfondissements.
Et toi, alors, en fait, tu t'es concentré là-dessus récemment ?
Ouais, de ouf. En vrai, c'est aussi. C'est aussi ça qui fait que je t'ai proposé le sujet. Hein. C'est parce que j'ai aussi bien lu qu'écrit dessus. Et enfin, moi, je trouve que c'est un marché. Enfin, la Russie, à ce point-là, c'est quand même. Je trouve un sujet super intéressant, en fait. Sa place dans le monde de l'énergie aujourd'hui.
Je suis d'accord avec toi. Même si je ne connais pas autant de sujets que toi, je pense que c'est un sujet super important. Et puis, en plus. On est quand même directement impacté parce qu'on est des clients potentiels. Donc, et en fait, on subit directement jusqu'à dans nos maisons le coût des politiques qui sont menées, que ce soit de la part de la Russie ou de la part de l'Europe par rapport à ça, en fait. Donc, c'est quand même pas mal d'être au courant de ce qui se passe. Et d'ailleurs, petit aparté, est-ce que t'as regardé l'interview de Tucker Carlson?
Ouais, j'ai regardé. J'ai des passages que j'ai sautés qui ne m'intéressaient pas, mais j'ai regardé les 2 heures en entier. Ouais.
Ah, ouais, ok. J'ai trouvé ça. Bon, évidemment, on n'en apprend pas autant qu'on voudrait en apprendre, mais je trouve ça intéressant d'avoir le point de vue, du responsable de la guerre en Ukraine, quand même, tu vois.
De mon point de vue, je trouve que justement, le défaut qu'il y a eu dans l'interview globalement, c'est qu'il a pu dire ce qu'il voulait.
Ah oui.
À aucun moment donné, il a. Entre guillemets, t'es coincé, même si Tucker Carlson essayait justement de le coincer. Mais il a. En fait, à la fin, c'est limite lui qui a fait sa propre interview. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Et donc, c'est là où je me suis dit, bon, au bout de 2 heures, enfin, c'est intéressant dans le fait que c'est inédit d'un point de vue, on va dire, plus diplomatique, mais en termes de connaissances, d'informations en plus, bon, c'est du Poutine qui a déjà dit. Enfin, Poutine a déjà dit ces genres de choses-là, en fait. Et donc, je trouvais ça dommage, en fait. Mais bon, après, c'est compliqué de faire une interview avec ce monsieur.
Mais je suis complètement d'accord. Et en fait, c'est. J'arrive totalement à comprendre la démarche et le challenge, en fait, dans le sens où il était dans un entre-deux en mode OK, j'ai accès à Poutine. Donc, ça, c'est un truc de ouf. Et je vais pouvoir enfin poser des questions, genre que les gens se posent. Mais en même temps, il ne peut pas le. Il peut pas non plus être agressif, tu vois. Exactement. Ou trop impertinent.
Que, il n'est pas sur son territoire. avec effectivement, c'est un citoyen américain, lui, l'autre, il est avec le responsable. Oui, celui qui a engendré la guerre actuelle. C'est vrai qu'il est dans il est dans le Kremlin, il est en Russie, tous les gardes de Poutine sont autour, il peut pas se permettre de faire une déviation, soit physiquement ou verbalement. Donc.
Ouais. Il y a ça,
je pense qu'il savait que s'il coinçait trop, ça pouvait tout casser, en fait.
Oui, il y a ça, il y a le truc aussi de la confiance que Poutine a mis en lui. Mais en plus de ça, il y a aussi pour sa carrière personnelle, Tucker Carlson, il est passé en mode un peu dissident en partant de. Enfin, il s'est fait virer de Fox et puis maintenant il est sur Twitter. Donc, du coup, je pense que le jeu qu'il doit jouer aussi. En fait, je pense que son objectif, c'est de pouvoir justement parler à des gens que les médias traditionnels ne veulent pas interroger. Et donc, s'il commence à être hyper agressif avec son premier invité de marque, ça va être compliqué.
Tout à fait, c'est clair.
Y a RR qui veut dire quelque chose.
Oui, bonjour tout le monde. Je voulais m'exprimer par rapport à l'interview de Poutine et de Tucker Carlson, si c'est possible, et j'entends ce que vous dites. Moi, je pense qu'il y a eu des rumeurs en disant qu'on sait tous que Tucker Carlson, c'est quelqu'un qui était très proche de Trump et de la personne de Trump. Et il y a eu des rumeurs qui disaient comme quoi Trump a voulu réorganiser ou créer un fil de communication avec Poutine. Et pour en ce qui concerne, je ne sais pas si c'est bien vrai, mais comme vous l'avez bien dit aussi, ça ouvre une fenêtre médiatique pour aussi se faire du buzz pour Tucker Carlson, parce qu'il a été éjecté par la grande porte, par Fox News, et par rapport à ses positions politiques aussi. Et voilà aussi, c'était une personne qui était beaucoup dans l'opposition. Il contredisait les discours dans les médias mainstream américains. Et on a vu même l'intervention de certains politiques en Europe, et même, comme il s'appelait, de Joseph Borrell. Il y a des gens qui ont même lui ont reproché cette interview. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être... en fait, qui peut être contesté par rapport au point de vue des libertés d'expression. Et mais quand vous dites que Tucker Carlson n'avait pas trop de marge de manœuvre face à Poutine, je pense pas que c'est bien vrai, parce qu'on a vu Poutine, même ces 20 dernières années, et il a donné beaucoup d'interviews, même avec El Kabach, il a toujours eu ce fort caractère, et c'était toujours quelqu'un qui arrivait à s'exprimer face à ses plus grands interlocuteurs et les plus grands journalistes qui l'ont interviewé. Il a ses capacités, et même on voit, même quand il réunit son état-major ou quand il fait des grosses démonstrations médiatiques avec ses forces de sécurité, c'est quelqu'un qui a un fort caractère en fait. Et je pense pas que Tucker Carlson il a eu peur vu qu'il était au Kremlin ou c'était face à Poutine, même si le personnage de Poutine est fortement impressionnant. Mais je pense que Poutine, il a cette capacité, et c'est quelqu'un qui est rodé au fil du temps, et il a eu cette expérience aussi avec plusieurs chefs d'État. Il en a vu tellement et tellement de journalistes qu'il a dû acquérir une certaine compétence. Il déroule ça dans cette interview avec Tucker Carlson, mais je trouve qu'il a été très constructif. Au contraire, quand il met le point sur le deep state américain, ou quand il parle de la politique américaine, la politique étrangère qui est régie en fait par la CIA, c'est quelque chose qui est connu. Mais le fait de dire ça sur une plateforme médiatique qui va toucher tous les citoyens américains les plus profonds, tu vois, c'est les gens qui sont pas trop connectés. Je pense que c'était quelque chose de très constructif, même si ça a été très stratégique de sa part. Voilà.
Merci pour ton intervention. ouais, alors c'est sûr qu'après, on ne va pas faire une émission sur l'interview de Tucker, mais c'est oui, c'est sûr. Bah, le truc, c'est qu'on n'a pas appris énormément de choses, mais c'est vrai que c'était quand même intéressant d'avoir le point de vue de...
Si, moi, pour ma part, j'ai appris, par exemple, un peu plus dans le détail qu'est-ce que c'était que Kiev, dans l'histoire de la Russie, comment les Russes voyaient ça, comment les Ukrainiens aussi voyaient ça, comment il y a eu la mutation aussi... de l'Ukraine par rapport à ces 20 dernières années, la politique étrangère américaine. J'ai appris aussi un peu plus dans le détail comment la CIA a généré les coups d'État successifs. Et sans donner en fait plus de crédibilité au discours de Poutine, parce que je pense qu'il défend ses positions et ses intérêts, mais tout en étant objectif, c'est des faits historiques réels qui doivent être connus en fait par le grand public, et surtout pour nous en France, pour en fait justifier les positions des politiques, de la politique française envers qui est l'État ukrainien, ou la politique envers les Russes. Et on a vu aussi la semaine dernière les accords de coopération militaire avec Macron et Zelensky. Et je pense connaître, en fait, savoir certaines choses qu'a énoncé Poutine durant son discours, je pense que c'est quelque chose qui est enrichissant pour nous, pour ce qu'on fait.
Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est enrichissant. Par contre, il ne faut pas perdre de vue que l'histoire, tu lui fais dire ce que tu veux. Quand Poutine raconte l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, c'est une version de l'histoire de la Russie et de l'Ukraine. Comme par exemple, quand tu écoutes Netanyahou parler de l'histoire d'Israël, c'est une version de l'histoire d'Israël. Tu vois ce que je veux dire?
Par contre, je vais argumenter là aussi.
Alors très court.
Dernier point, après, je te jure, je me tais si je peux. Parce que ça n'a rien à voir, parce qu'il y a eu une Kiev russe, ça c'est un fait dans l'histoire. Contrairement à l'État d'Israël, c'est une théocratie, c'est basé sur une terre promise, et c'est contraire à tout ce qui est droit international, droit économique. En fait, on acquiert une terre soit par héritage, soit pour
Je ne veux pas te couper dans ton élan. Non, mais ce n'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est juste que quand quelqu'un raconte l'histoire, qui est l'histoire éventuellement d'un pays, etc., tu n'as pas tout, en fait. C'est pas exhaustif. Et il faut juste le garder en tête. Je ne dis pas qu'il a dit des conneries ou quoi. Je dis juste que ça fait partie du truc que quand tu analyses un discours, il faut que tu gardes en tête que ce qu'il dit, c'est pas exhaustif. Il y a peut-être des éléments qui ont été omis intentionnellement ou pas, et voilà, c'est ça. Mais c'est sûr que c'est intéressant. C'est juste ça. Il n'y avait pas de position. Après, on peut en discuter pendant 1000 ans, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Là où je voulais juste remettre le truc en perspective, c'est que contrairement au discours de Netanyahou, c'est du pur fantasme, la création de l'État d'Israël, parce que c'est une théocratie, c'est basé sur une terre promise que le Seigneur, le Créateur, leur a promis. Tu vois, c'est contraire à tout droit international. Et contrairement à Poutine, lui qui a énoncé des faits, même s'il a fait exprès d'omettre ou d'oublier ou d'énoncer d'autres faits. Tu vois, là, je suis d'accord. Mais n'empêche qu'il a énoncé des faits historiques factuels.
Ok. Bon, bah, en tout cas, je pense qu'on peut clore ce petit chapitre d'introduction à la Russie. Mais c'était cool, c'était intéressant. Et donc, du coup, ouais, ce soir, on va se baser essentiellement sur l'énergie. Comment la Russie gère l'énergie qu'elle produit, qu'elle vend. D'ailleurs, j'allais dire, peut-être même qu'elle importe, j'en sais rien, mais en tout cas qu'elle exporte essentiellement. Et comment les autres pays dans le monde, que ce soit l'Europe, les États-Unis, la Chine ou les autres pays, comment ils dealent avec ça. Et alors, je ne sais pas par où exactement commencer, Vincent, mais par contre, je ne sais pas si c'est un bon départ. Mais en faisant mes petites recherches, j'ai vu que il y avait un. Alors, ils ont un canal de, un, comme une route de d'acheminement de du gaz et du pétrole qui s'appelle Power of Siberia vers la Chine. Et en fait, j'ai appris donc aujourd'hui qu'ils étaient en train de travailler sur un autre chemin d'approvisionnement qui s'appelle Power of Siberia 2 et qui part du haut de la Sibérie et qui est censé donc acheminer donc toute l'énergie de cette région vers la Chine aussi.
C'est vrai ce que tu dis, c'est qu'il y a un premier, donc c'est un pipeline, hein, donc le Power of Siberia 1 qui a une capacité lui de 38 milliards de mètres cubes par an, et aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il n'en exporte que 23. Parce que ça prend du temps à chaque fois de produire le gaz, ensuite de l'acheminer au pipeline et ensuite de le transporter sur des milliers de kilomètres, etc. Enfin, c'est du travail vraiment d'ingénierie. Et aujourd'hui, il manque surtout de technologie occidentale pour que ce soit la production, la partie géologie. Il se base énormément sur la technologie et le financement occidental qu'ils n'ont plus, d'où le fait que ça prend encore plus de temps d'exporter l'ensemble de la capacité de gaz du gazoduc en question. Et donc ça, c'est, ils disent que vers 2027, ils arriveront aux 38 milliards par an. En tout cas, c'est des estimations du ministère de l'énergie russe. Et comme tu l'as très bien dit, il y a le port of Siberia 2, du coup, lui qui passe évidemment par la Sibérie, ensuite descend vers la Mongolie et va vers la Chine, qui lui a une capacité de 50 milliards de mètres cubes par an. Et aujourd'hui, en fait, il est quasiment au niveau zéro, ce projet-là. Car ils n'ont ni les matériaux,
okay.
Ni les fin- ils ont plus du, enfin tous les, de base on avait Total qui était dans le projet, on avait CNOOC chinois qui est toujours là, on avait Exxon qui était là, et en fait depuis qu'il y a eu beaucoup de sanctions occidentales, notamment américaines, en fait le projet n'a fait depuis l'annoncement en 2019, il a fait littéralement aucun projet significatif les deux dernières années. Et la Chine derrière, elle utilise cet effet de levier en fait pour avoir le gaz le moins cher possible. C'est qu'ils savent que la Russie aujourd'hui, ils ont perdu quasiment tout leur marché européen, et le but c'est de négocier, de faire traîner et la Chine n'aide pas, ils ne financent pas plus que ça, ils ne fournissent pas plus de matériaux que ça, pour derrière jouer sur les prix pour avoir le gaz le moins cher pour assurer sa sécurité énergétique. Et ça, ils disent que les 50 000, enfin, encore une fois, la vice-première ministre russe, qui disait que pour le Power Siberia 2, les 50 milliards de mètres cubes par an, théoriquement, ils pourraient les envoyer en 2035. Et pourtant, et aujourd'hui, il n'est même pas.
Ah, c'était. Ouais, les prévisions à la base, elles étaient plus courtes, il me semblait. C'était genre 2027 ou 2030,
c'est
je ne sais pas
trop quoi. C'est les sanctions qui ont totalement remodelé. La stratégie russe à ce niveau-là, parce que derrière, de base, nous, on était son plus gros marché, on ne l'est plus du tout, du coup, là, se redirige vers l'Est, donc tu as la Chine, tu as la Turquie, tu as les pays post-soviétiques, donc Biélorussie, tu as l'Ukraine encore, tu as tous les pays d'Asie centrale. Voilà, aujourd'hui, elle doit remodeler sa stratégie, sinon elle va. Enfin, son grand effet de levier énergétique, elle va le perdre, en fait, si elle ne construit plus du tout de pipeline, elle perd tous ses clients.
Ah ok, d'accord. Donc en fait, c'est marrant que la Chine n'essaye pas d'aider à la construction de cette deuxième route d'acheminement. En fait, c'est genre vraiment, en fait, ils sont pas en galère comme en Europe par exemple. Donc ils sont là en mode ils regardent et ils veulent essayer de faire de leverage ces difficultés pour avoir les prix les plus intéressants, c'est ça que tu dis?
Ah oui, bah, c'était pareil pour Siberia 1. Hein. C'est que le projet a été officiellement lancé en 2009, mais c'est qu'en 2014, après l'invasion de la Crimée par la Russie, que la Russie a voulu... Bah, et commence déjà, à ce moment-là déjà d'avoir eu des sanctions, mais surtout sur des compagnies spécifiques, pas sur des marchés ou sur des moyens d'exportation. Et à ce moment-là, déjà, c'est là que la Russie a commencé à faire son pivot vers l'Est, de vouloir du coup exporter vers la Chine, et que là, Gazprom, du coup, l'entreprise de gaz russe, enfin le champion national russe, a tout mis en œuvre pour accélérer le processus pour exporter vers la Chine. Alors, sachant que de base, le projet, il devait commencer en 2009. Mais la Chine, en fait, elle a les moyens financiers, ça, c'est exactement, de, au pire des cas, d'acheter du gaz sur le marché spot, si besoin, et de pas... La Chine, elle est aussi consciente que si elle dépend trop de la Russie, elle a un peu peur d'un coup de ce que la Russie a fait l'Europe vers la Chine. Tu vois, eux, ils sont pas meilleurs potes non plus. Hein. C'est pas des pays... ils ont certes une histoire commune, une idéologie commune. Ils se disent alliés, mais aucun des deux n'emploie le mot ami entre les deux pays. Donc la Chine se méfie en partie de la Russie, et vice-versa, la Russie se méfie en partie de la Chine. Donc la Chine, si elle a un moyen d'activer un effet de levier pour, pas embêter la Russie, mais prendre avoir un avantage sur des prix ou sur des financements ou sur de l'accès à des matériaux, etc., elle va pas hésiter à le faire. Tu vois, même on peut dire allié, mais c'est une question d'intérêt avant tout, tu vois.
Ouais, alors ça c'est marrant parce que bon, bah, on parle souvent, genre, tu sais, de la Chine et de la Russie super potes, en fait, parce qu'on se dit, ouais, mais ils sont dans le BRICS. En plus, en Occident, on a tendance à nous laver un peu le cerveau pour nous dire que alors la Russie c'est l'ennemi, puis la Chine aussi c'est l'ennemi, et que donc bon, vu que les deux sont ennemis, bon bah c'est des amis forcément. Alors, en fait, non, pas vraiment. Il y a quand même une compétition en fait qui est quand même qui a lieu entre ces puissances qui essayent chacune de tirer la couverture vers elle en fait.
Exactement. C'est exactement cela. Et aujourd'hui, on le voit sur le plan énergétique où sur les deux gros gazoducs, enfin, qui sont pas entièrement fermés et dont les capacités sont pas entièrement déroulées, on voit comment ça traîne, alors que c'est des projets qui, en fait, ont été officiellement lancés déjà il y a 5, 6, voire 7 ans pour certains d'entre eux.
Il y a Saleh Dingia qui vient de poster une référence. Il dit « La réponse se trouve en grande partie là-dedans » et il a mis une image d'un livre qui s'appelle « Russie, le retour de la puissance » par David Turtry. Est-ce que tu connais ?
Pas du tout. J'avoue que je viens de voir l'image, je ne connais pas le livre, mais je vais regarder de plus près après l'émission.
Cool. Bah, en tout cas, merci pour la référence. RR, je vois que tu veux reprendre la parole. Essaye de faire concis et pertinent.
Ouais, c'est tout simple. Je vais essayer, merci de me donner la parole. C'est par rapport au rapport de force entre la Chine et la Russie et l'approvisionnement en gaz. La Chine en a fortement besoin de ce gaz et elle veut sortir sa dépendance au charbon. Mais de ma part, je pense qu'elle veut voir comment va évoluer en fait, le rapport de force et les sanctions entre la Russie et l'Europe. Mais n'empêche que la Chine va faire prévaloir en fait, va faire accélérer les négociations pour avoir accès à une énergie dont elle en a fortement besoin et pas cher, parce que si les sanctions s'atténuent de la part de l'Europe, elle va se retrouver mise en deuxième plan et l'économie, en fait, les transactions énergétiques entre l'Europe et la Russie qui n'ont pas cessé, en fait, même s'il y a des intermédiaires qui ont accès au marché aujourd'hui, comme l'Inde ou l'Arabie Saoudite, qui revendent des deuxièmes mains. Je pense que la Chine ne va pas vouloir se retrouver en deuxième plan et le projet Siberia 2 va connaître une accélération dans les années à venir, c'est mon point de vue.
Est-ce que tu veux rebondir là-dessus, Vincent ?
Pas de prédiction à faire, mais ça, je suis d'accord sur le fait que la Chine ne voudra pas passer au second plan, et elle fait également attention effectivement à des sanctions secondaires de la part de, bah, notamment des États-Unis. Aujourd'hui, c'est vraiment les États-Unis, par contre, qui attaquent l'industrie énergétique russe et veulent vraiment, vraiment la plier en deux pour réduire au maximum les revenus russes, parce que faut savoir que dans le budget fédéral russe, 60% des revenus, c'est gaz et pétrole. Plus le pétrole que le gaz, qui est Le pétrole, c'est plus de l'ordre de 35-40%, le gaz 20%, mais aujourd'hui, il y a une telle offre de gaz qui rentre en concurrence de la part notamment du GNL avec le Qatar, le Qatar, l'Australie et les États-Unis derrière la Russie, que la Russie sait qu'elle a, bah, elle a un rôle à jouer dans ce jeu, on va dire, de l'énergie. Et après, de l'accélération, je ne sais pas, mais c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est très lent et c'est un projet quand même qui avait été lancé vraiment en 2018. Donc, on est toujours 6 ans après et il n'y a vraiment eu aucune construction significative du projet. Donc, à voir, ça peut s'accélérer comme ça peut toujours traîner. Ça dépend de l'évolution de la guerre, ça dépend de l'évolution des financements que la Russie aura. Ça dépend de si les États-Unis continuent à mettre des sanctions sur des compagnies, compagnies russes, compagnies chinoises, alors on peut aller sur des compagnies chinoises, compagnies indiennes, empêchent toutes les banques fournisseurs américains ou qui utilisent du dollar américain de financer ce projet-là, tous les projets de méthaniers, les bateaux qui arrivent à les briseurs de glace dans l'Arctique. Ils peuvent vraiment sanctionner toutes ces compagnies-là. Et après, ça devient vraiment compliqué. Et on le voit aujourd'hui, par exemple, avec l'autre projet Arctic LNG 2, qui est un projet de GNL, qui devait être officiellement lancé en décembre 2023. Et apparemment, aujourd'hui, on n'a toujours aucune avancée technique. Enfin, vraiment, alors là, vraiment, concrètement, il n'y a aucune avancée sur le projet. Et la Russie, aujourd'hui, fait face à des... Enfin, elle admet aujourd'hui qu'il y a beaucoup de ralentissements à ce projet-là et que ça va prendre plus de temps que prévu. Donc, ce qui fait qu'elle... Le temps que ces projets se mettent en place, bah derrière, si tu veux, tu vas pas les États-Unis qui vont embaucher sur leur projet, le Qatar pareil, l'Australie pareil, l'Iran, tu auras plus en plus d'acteurs qui vont rentrer en jeu, même des acteurs africains comme le Mozambique, par exemple, ou l'Algérie. Et donc, en fait, derrière, tu as la Russie qui va commencer à traîner. Et ça, c'est problématique pour eux.
Alors, RR, tu voulais rebondir là-dessus ?
Ouais, je voulais rebondir là-dessus. Je voulais dire, pour quand j'ai dit qu'il va y avoir une accélération, c'est une prédiction. Et pour argumenter ça, c'est par rapport au projet Sibérien 1. C'est un projet qui a été déclenché dans les années 2000. Et les Chinois ont adopté la même stratégie qu'ils adoptent pour Sibérien 2. Parce qu'en fait, l'avancement du projet Sibérien 2, il dépend beaucoup des investissements et de la bonne volonté chinoise qui fait patiner le projet. C'est pour ça que j'étais d'accord par rapport à tes propos dans un premier temps. Je suis 100% d'accord. Et concernant le Sibérien 1, on a connu le même acheminement par rapport au point de vue chinois. Et dès qu'il y a eu l'intervention, en fait, en 2014, le chamboulement de la politique en Ukraine, et ben là, on a vu une accélération du projet Sibérien 1. Et je pense que les Chinois, ils sont encore en train de jouer la même chose et ils essayent de voir le dénouement entre l'Europe et les Russes. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va s'atténuer. N'empêche que les Américains, ils font tout pour paralyser... pour paralyser en fait la stratégie russe qui est de renouer avec l'économie européenne. Mais n'empêche que si les Chinois ils sentent un rapprochement entre l'Europe et la Russie, je pense qu'ils vont, comme ils ont fait pour le Sibérien 1, ils vont réaccélérer le projet pour le Sibérien 2. C'est ce que je pense. Et merci pour m'avoir laissé l'intervention. Je vais descendre en auditeur. C'était très agréable de parler avec vous. Bonne soirée.
Ben merci à toi. Je voulais en profiter pour donc parler du cas de l'Europe parce que. Bon, l'Europe a émis des sanctions vers la Russie. Ils arrêtent d'importer de l'énergie. Alors, je ne sais pas ce que ça représente, les coupures. Tu vas probablement pouvoir nous en parler après, Vincent. Ils ont diminué leurs importations depuis la Russie. Et donc, dans mes petites recherches, j'ai vu que, pour pallier à ça, au manque qui émane de ces interdictions, ils ont augmenté leurs importations de charbon. Donc le charbon fait le retour en force du charbon dans l'énergie européenne. Je trouvais ça complètement taré parce que c'est littéralement un retour en arrière. On était déjà au courant qu'il y avait le charbon s'immiscer dans la production d'énergie en Europe. Mais en me renseignant un petit peu, j'ai vu que le charbon, en fait, je me suis demandé mais d'où il vient ce charbon en fait, parce que c'est pas ils n'ont pas. Alors peut-être qu'ils ont réouvert des mines, d'ailleurs, j'en sais rien. Je crois que oui, en Allemagne, peut-être qu'ils ont fait ça. Mais ils importent aussi énormément de charbon de l'extérieur. Et donc, d'où ils importent le charbon ? Alors, apparemment des États-Unis, mais aussi de l'Australie et d'Afrique du Sud. Et alors, du coup, je me suis dit, mais alors comment ils importent ce charbon-là d'endroits aussi lointains ? Et en fait, ils importent évidemment le charbon sur des bateaux. sachant que... alors, je me suis enchaîné. J'ai des petits chiffres intéressants, notamment en 2022, l'Union européenne a importé 120 millions de tonnes de charbon depuis ces endroits-là. Sachant que pour transporter du charbon sur 10 000 km, il faut compter 2 tonnes de CO2 de consommer, enfin de produits, pardon, c'est pour une tonne de charbon. Donc en gros, si on considère que la moitié du charbon qui a été importé provient de ces endroits-là, ça fait donc, ça revient à 120 millions de tonnes de CO2. 120 millions de tonnes de CO2, c'est à peu près 4% des émissions de CO2 de toute l'Union européenne. Du coup, je me suis renseigné un petit peu aussi. Je me suis dit, parce qu'il y a le truc, tu as sûrement vu passer le poste, le fameux poste de la BCE sur Bitcoin, qui disent que Bitcoin, c'est de la merde, etc. On nous a bassiné super longtemps sur le fait que, bon, pour toutes sortes de raisons, ça va à zéro, ça, les gens se font arnaquer, ça fait qu'il y a du commerce illicite à cause de Bitcoin. Et aussi, un des arguments, c'était ça pollue de ouf. Et en fait, pas tant que ça. En fait, si tu regardes toutes les études qui ont été faites, en fait, Bitcoin, par exemple, ça consomme. Alors, on ne sait pas exactement dire précisément au jour d'aujourd'hui combien ça consomme, mais les estimations, c'est entre 40 millions et 80 millions de tonnes par an. C'est-à-dire, en fait, genre facile, trois fois à quatre fois moins que juste les bateaux qui vont emmener du charbon jusqu'en Europe. Et je trouve ça fou, en fait. Je trouve ça fou que l'Union européenne nous fasse la morale en permanence, qui demande aux habitants de l'Union européenne de baisser leur chauffage et de pas utiliser Bitcoin, alors que ils importent du charbon des quatre coins du monde. C'est une horreur pour l'environnement. C'est en termes de coûts aussi, c'est absolument n'importe quoi. Tout ça pour des sanctions qui sont quand même assez discutables, alors qu'ils pourraient juste. Alors c'est ça. Alors il y a ça. Et une question, je vais sauter les pieds dans le plat. Je me suis dit, ok, alors officiellement, l'Europe importe plus de pétrole et de gaz, en tout cas moins, par les chemins, par les pipelines. Mais il y a encore énormément de cette énergie qui transite par les voies maritimes. Et tu te souviens, la semaine dernière, on a parlé du Mexique et notamment de la Chine qui, comme elle n'avait pas le droit, elle voulait éviter les taxes d'exportation vers directement les États-Unis, elle passait par le Mexique. Mm-hmm. Donc elle commerçait avec le Mexique, et ensuite c'est le Mexique qui envoyait les produits façonnés vers les États-Unis. Je me suis dit, est-ce qu'il y a la même chose pour l'énergie, en fait? Est-ce que éventuellement la Russie envoie par bateau son énergie dans divers pays, et ensuite l'Europe va s'approvisionner de cette manière-là, vers ces pays qui font tampon, en fait. Donc, en gros, ils vont faire des sanctions. Ils ne vont pas prendre cette énergie-là par les voies officielles, mais en fait, ils vont anyway prendre cette énergie-là d'autres manières, par d'autres voies, par d'autres pays.
Ok, bon, grosse question. Hein. Je vais séparer en deux. Déjà, ouais, alors juste une petite rectification. Effectivement, c'est pas l'Europe qui a décidé pour le gaz de diminuer, c'est avant tout la Russie, pour contrecarrer les sanctions, qui a commencé à diminuer, elle, ses exportations de gaz. Tout d'abord, tu as eu le Nord Stream 1, pour faire rapidement, donc c'est le gros pipeline, le plus gros pipeline de base qui relie la Russie directement à l'Allemagne par la Nord-Baltique, qui a une capacité de 55 milliards de cubes par an. Lui, en septembre 2022, les flux sont tombés à zéro. Ils se sont arrêtés progressivement, puis sont tombés à zéro. On a ensuite le deuxième gros pipeline, le Yamal Europe, qui rejoignait directement la Pologne. Et ensuite, de la Pologne, il y avait du gaz qui était exporté en France, en Allemagne, en Hongrie, en Serbie. Lui, il avait une capacité de 33 milliards de mètres cubes. Et ensuite, aujourd'hui, les deux pipelines qui restent, en fait, et qui effectivement exportent du gaz en Europe, c'est le Turk Stream, donc, qui passe par la Turquie. Et en 2023, on avait environ 13 milliards de mètres cubes dans l'année qui sont passés vers l'Europe pour une capacité de 31,5 milliards. Et tu as le gros transit qui passe par l'Ukraine, qui lui, théoriquement, hein, contractuellement, il devait transiter par l'Europe 40 milliards. En 2023, il a transité 15 milliards. Donc là, on voit la forte diminution en fait, qu'il y a eu des exportations vers nous. En fait, de la part de la Russie, ce n'est pas nous qui avons décidé d'arrêter parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, le fait qu'on ait beaucoup compensé, et là, du coup, je réponds sur ta question, par une diversification des approvisionnements. Donc aujourd'hui, on a vachement diversifié pour le gaz russe par le GNL. Donc aujourd'hui, dans dans l'ensemble des importations de gaz, donc par pipeline et par GNL, le GNL, ça représente 40% de nos importations de gaz. Donc aujourd'hui, et notamment du GNL américain, on a ensuite un peu du Qatar également, du Mozambique, de l'Algérie et de la Libye. Ça, c'est vraiment nos gros fournisseurs. Et là, pour rebondir sur ta question sur s'il y a des intermédiaires, des gens qui rebondissent, ça marche pas, c'est pas pour le gaz. Le gaz, on en importe toujours de Russie. Hein. Pour le GNL, on en a importé 24 milliards de mètres cubes par an en 2023. Et pour les pipelines, on a exporté à peu près en plus de la moitié. Donc en 2023, on a importé au total 50 milliards de mètres cubes de gaz de la Russie. Bref, concernant le pétrole, donc eux, pareil, comme tu l'as très bien dit, on a arrêté d'importer le pétrole russe maritime. Donc tout ce qui passe par la mer, on arrête. Et si on veut le transporter aujourd'hui, il faut, donc selon la sanction, hein, que le pétrole russe soit vendu en dessous des $60 le baril. Parce qu'il faut savoir que pour que les bateaux soient assurés, sachant que le Royaume-Uni et la France, c'est 85% de l'assurance maritime mondiale. Donc théoriquement, on se disait, ils ne peuvent plus exporter, c'est bon, enfin, ils peuvent plus, ils vont devoir se soumettre aux sanctions. Bon, la Russie est totalement contrecarré les sanctions à 100%. Elle exporte aujourd'hui plus que 2000, en 2023, elle exportait plus qu'en 2022, et en 2022, elle avait exporté plus qu'en 2021. Les exportations russes, c'est entre 6 et 7 millions de barils par jour. Et si tu veux, aujourd'hui, les nouveaux acheteurs, c'est notamment l'Inde et la Chine. L'Inde, c'est 40, aujourd'hui, elle importe 40% des exportations de pétrole russe, et la Chine, c'est de l'ordre de 30-35%. Après, tu as d'autres pays, tu as l'Iran, tu as la Turquie, tu as le Brésil, tu as le Venezuela également. Donc voilà. Et si tu veux, aujourd'hui, donc ces pays qui achètent ce pétrole russe, ils le raffinent, donc ils le traitent pour le transformer en produit pétrolier raffiné. Donc ça va être l'essence, le diesel, le kérosène, le carburant pour se chauffer, ça s'appelle heating oil, le gasoil, etc. Et si tu veux, du coup, ces pays-là qui achètent du coup du pétrole russe, alors c'était le cas avant, hein, en 2022-2023, qui est à bas coût, par un rabais dû au fait des sanctions, et du coup, ils avaient un effet de levier pour demander du pétrole russe à rabais. Derrière, ils revendent des produits avec une marge beaucoup plus élevée, parce que du coup, ils achètent bas et ils revendent cher, du coup, à nous. Parce que nous, en Europe notamment, on est structurellement déficitaire en produits pétroliers raffinés. On n'a pas assez de production nationale de diesel, d'essence et de jet fuel. Donc, on est obligé d'importer notamment d'Arabie Saoudite, d'Irak et d'Inde. Et tous ces pays-là, en fait, aujourd'hui, ils ont accès à du pétrole pas cher. Donc, soit du pétrole de Russie, mais également du pétrole vénézuélien, du pétrole iranien, pas cher. Et derrière, leurs raffineries, en fait, font des marges énormes en nous revendant à nous. Donc, si tu veux, oui, en fait, on a mis des sanctions qui, de base, ont été complètement contournées. Mais derrière, en fait, on achète les produits, enfin on achète indirectement les produits contre le pays contre lequel on les a sanctionnés. Donc oui. Aujourd'hui, tu as plein de pays effectivement intermédiaires qui déjà aident la Russie à transporter son pétrole sur des tankers énormes via des routes des fois qui ne sont pas, enfin, dont on n'arrive pas à les suivre par satellite parce qu'ils éteignent la localisation de leurs tankers. Il y a des boîtes de trading qui, pareil, acheminent le pétrole russe. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais tu vois, aujourd'hui, tu as plein de pays en fait, qui exportent vers nous des produits pétroliers raffinés qui, de base, sont produits à partir de pétrole russe.
Ouais, c'est ça. Donc, en fait, on achète du pétrole raffiné à l'Irak et l'Iran, alors que, officiellement, c'est des méchants.
C'est vraiment le pays auquel on achète, qui est le plus gros exportateur de diesel aujourd'hui pour nous, pas dans le monde. Hein. Pour l'Europe, aujourd'hui, le diesel, il est principalement. Le diesel qui est utilisé pour la logistique, hein, c'est le carburant des transports. Pour l'industrie manufacturière, il faut du diesel. Et aujourd'hui, bah, c'est l'Inde qui dont importe le plus, mais et l'Inde derrière, c'est le plus gros acheteur de pétrole russe. Donc voilà comment c'est. En fait, juste le marché, c'est juste reglobalisé. On n'arrête pas le marché, juste les routes changent, en fait, évoluent.
Ouais, c'est ça qui est intéressant en fait. C'est quand il y a d'un côté le discours politique et puis il y a de l'autre en fait l'économie, le marché de l'énergie en fait, qui
Bah,
lui
c'est
en fait
ça.
il s'en tape un peu quoi.
Bah, on peut pas, en fait, on peut pas ne plus dépendre de l'énergie. Et pareillement, par exemple, je rebondis sur le charbon. Effectivement, bah, l'Australie et la fait juste font partie des plus gros hein, producteurs mondiaux de charbon. Mais on importe du GNL américain. Le GNL américain, il est produit à base de gaz de schiste. Après, c'est un gaz qu'on liquéfie et qui est envoyé sur des méthaniers qui est transporté chez nous et qui est ensuite regazifié pour bah, être utilisé dans l'industrie, enfin, pour la demande industrielle. La demande de chauffage et la demande d'électricité. Mais de base, c'est du gaz en fait à base de gaz de schiste. Et nous, la Commission européenne, elle a interdit en Europe toute production de gaz de schiste. Et derrière, on en importe. Donc c'est là, en fait, c'est à la fois de l'hypocrisie, mais au-delà de la valeur morale, c'est là qu'on en fait, on a mis un, enfin, ça a mis un point énorme sur le fait qu'il y a une différence entre la sécurité énergétique et la transition énergétique. Justement, dans le mot transition, c'est justement, c'est il y a une phase de. On doit trouver un bon équilibre entre l'adoption des énergies renouvelables, mais également bah, derrière se prévoir, se prévenir bah, de potentielles crises comme on a vécu là et qui peut-être qu'il y en aura d'autres. Par exemple, aujourd'hui aux États-Unis, justement, l'administration de Biden, même si théoriquement ça va pas nous affecter, a mis en pause tous les projets de gaz GNL, enfin des entreprises GNL. Qui n'ont pas d'accord avec des pays qui n'ont. Enfin, pardon. Ils ont mis en pause les projets GNL d'entreprises américaines, car c'est pour les entreprises américaines qui n'ont pas d'accord de libre-échange entre les États-Unis et ce pays tiers. Donc là, ça a mis en fait, c'est presque plus de 20 projets de GNL aujourd'hui qui sont arrêtés et qui sont donc en attente d'approbation. Ça peut être une mesure politique, on en pense qu'on veut. Bien évidemment, ça ne va pas affecter aujourd'hui le marché européen, mais pour dire qu'aujourd'hui, lorsque le marché de l'énergie, il est interdépendant de tous les côtés. Aujourd'hui, hier, c'était la crise énergétique, enfin, c'est de la crise énergétique de la part de la Russie. Demain, ça peut être un Trump qui veut nous sanctionner et qui dit, bon, bah, aujourd'hui, on va limiter les exportations de GNL vers l'Europe. C'est au hasard, hein, et c'est en soi, c'est totalement insignifiant et c'est totalement dérisoire. Mais pour dire qu'aujourd'hui, bah, la politique, elle est vachement rentrée également dans le jeu de l'énergie, comme on l'a vu en Europe, comme on le voit actuellement aux États-Unis, comme ben, on le voit en Chine, comme on le voit en Russie.
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le GNL?
Alors, GNL, c'est gaz naturel liquéfié. Donc, en fait,
Ok.
c'est du gaz qu'on refroidit à en dessous des 178 degrés, qu'en fait, pour geler les molécules, qu'on va ensuite chauffer pareillement une certaine température avec d'autres molécules de gaz qui sont mélangés à des produits chimiques, mais là, je n'ai pas les formules scientifiques dans ma tête. Et en fait, ce gaz liquéfié, il émet beaucoup moins de CO2, et notamment de méthane, surtout avant tout de méthane, dans sa production et dans sa liquéfaction. Et derrière, il est surtout beaucoup plus facilement transportable. Du coup, tu le transportes sur des méthaniers, il est sous forme quasiment liquide, du coup, tu peux le transporter en plus grande quantité et de manière surtout plus facile, c'est plus flexible. Le GNL, vraiment, t'es pas obligé de construire des gros pipelines énormes qui prennent des années, qui demandent beaucoup d'argent, bah, des fois, voilà, qui passent par des pays où tu peux avoir des tensions, des guerres, etc. Le GNL, ça se transporte par méthanier, et du coup, bah, voilà, t'as ce fait que ça émet moins de méthane et moins de CO2, ça se produit très facilement à moindre coût, et en termes de transport, c'est beaucoup plus flexible. C'est ça les grosses forces du GNL aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans le monde du gaz, c'est vraiment le GNL qui semble supplanter dans les années à venir pour la production de gaz.
Est-ce que j'ai bien compris que ce que tu as dit, c'est de faire ce processus-là de refroidissement du gaz et du réchauffement de ce gaz-là pour ensuite s'en servir? Est-ce que ça produit du méthane, c'est ça?
En fait, ça produit, mais ça émet beaucoup moins de méthane que la production de pur gaz de schiste, en fait.
Ok, je vois.
C'est
Je
que
vois.
derrière. Dans le processus de production, même si de base c'est du gaz de schiste, hein. Mais justement le processus de liquéfaction et de réchauffement font que entre ce processus-là et le processus de full production de gaz de schiste et on transporte chez nous, il y a un bon gap, surtout sur l'émission de méthane.
Ouais, mais du coup, ça se cumule quand même, parce que si c'est du gaz de schiste à la base,
c'est polluant. De base, c'est clairement polluant. Ouais. Juste, on ne veut pas le dire, mais on en a besoin. Et aujourd'hui, les États-Unis, dans les 40% justement du mix, enfin des importations de GNL en Europe, les États-Unis, c'est 50%. Pour donner un chiffre plus précis, on a importé 145 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié en 2023. Les États-Unis, dans cette part-là, c'était 65 milliards.
Donc, je me demande.
C'est 50%.
Je me demande comment ça se passe par rapport au Canada, parce que je sais que les États-Unis importent énormément.
Ils importent du pétrole du Canada.
Oui, et qui vient du gaz de schiste.
Oui. en Amérique du Nord, c'est que du gaz de schiste. Hein.
Ouais.
Enfin, même si au Canada, c'est ce qu'on appelle du pétrole lourd et bitumeux, donc c'est fait à partir d'un certain type de sable en fait. Ouais. Et derrière, la fracturation hydraulique, pour justement avoir en quantité, c'est pour puiser dans des puits plus profonds. C'est ça la technique qui donne qu'à la fin on a du gaz de schiste ou du pétrole de schiste. C'est la technique de la fracturation hydraulique. Et ça, aujourd'hui, aux États-Unis, c'était eux les pionniers. Le Canada a suivi. Mais c'est pour ça que ces deux pays-là, aujourd'hui, en termes de production énergétique, ils sont très élevés. Parce qu'en fait, le côté environnemental a été vraiment mis de côté à ce niveau-là.
Ouais, le Canada, c'est assez spécial. Il y a une espèce de dissonance cognitive de ouf. Parce qu'en même temps, par exemple, pour tout ce qui est production en fait, ils ont une énergie quand même assez propre en général pour ce qui est. Parce qu'ils ont beaucoup de barrages hydroélectriques et tout. Mais en même temps, pour ce qui concerne les deals avec les États-Unis, ils ont des pratiques extrêmement polluantes et extrêmement. C'est quand même assez hardcore ce qu'ils sont en train de faire dans le nord du Canada pour pouvoir justement exporter vers les États-Unis qui a une demande de plus en plus accrue depuis le Canada en fait. Je sais qu'ils ont ouvert des nouvelles. Je sais plus exactement, je pourrais pas dire précisément ce qui se passe, mais je sais que ils ont des accords qui sont de plus en plus. Ils exportent de plus en plus vers les États-Unis. Le gaz de schiste.
Tout à fait. Je valide ce que tu dis. Hein.
Je me demandais si d'ailleurs justement les États-Unis est-ce qu'ils font ça, est-ce qu'ils importent est-ce qu'ils importent du Canada pour ensuite envoyer en Europe, ce serait vraiment drôle. Mais
ça je ne saurais pas dire la portion parce que tout le dans les chiffres publics en tout cas ce n'est pas dit hein, les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie américaine, l'EIA. Donc ça c'est pas explicité. Dans les exportations, ils ne donnent pas ça vient d'où, est-ce que ça vient du Canada, du Mexique, etc. Après, j'imagine que oui, parce que le but, c'est quand même de maximiser la production nationale pour la consommation nationale. Et du coup, justement, de profiter des importations pour ne pas puiser dans ses propres stocks et de les exporter. Ça, tu vois, c'est une logique, je veux dire, que tous les pays utilisent, et de privilégier ses stocks, de privilégier sa production et de profiter des importations à moindre coût qu'on peut exporter à un coût plus élevé. Ça, c'est comme je t'expliquais avec l'exemple de l'Inde. On importe moins de coûts, on exporte à plus de coûts. Bon, ça, c'est un truc logique. Donc, j'imagine que ça doit se faire. Ça, c'est bon. J'ai envie de dire, c'est ce que tout le monde fait. Quoi.
Et tu parlais de sécurité énergétique. Ça, c'est un gros, gros sujet parce que. Alors, j'imagine que c'est peut-être une expression qu'on doit définir, mais d'après moi, c'est genre le. La sécurité énergétique, c'est diversifier ses sources d'approvisionnement, mais aussi produire sur place, ou en tout cas trouver des moyens pérennes d'importation. Je ne sais pas trop comment on définit la sécurité énergétique.
Aujourd'hui, c'est super simple. Hein. La sécurité énergétique, c'est avoir, en termes de supply, donc de l'offre, que ce soit des importations, les stocks et la production nationale, avoir assez en termes annuels, hein, pour, j'ai pas le mot, mais pour, on va dire, assouvir la demande nationale. Donc après, les importations, que ce soit envers un client ou c'est une diversification de clients, mais à la fin, le but de la sécurité énergétique, avant tout, c'est que tu puisses assouvir la demande de ton pays. Et que sans compromettre l'offre, hein. C'est que voilà, tu ne vas pas non plus puiser dans tes stocks jusqu'à te mettre en danger. C'est pas de produire au niveau le plus maximal possible, et c'est pas forcément de se mettre en danger en termes d'approvisionnement extérieur. Mais à la fin, le but, c'est vraiment annuellement, ton offre peut compenser ta demande.
Et donc, ce truc-là peut se faire au détriment d'un certain nombre de valeurs ou de... économiquement.
À un moment donné, c'est une question de survie. C'est vraiment une question de survie pour le coup, parce qu'on dépend d'énergie pour tout. C'est que ce soit la demande commerciale et résidentielle, donc c'est essentiellement la demande de chauffage. La demande industrielle, c'est pour faire marcher tes usines, tes entreprises, ton transport, ta logistique, littéralement tout ce qui fait ton électricité. Et la demande d'électricité, alors certes, elle est renouvelable, mais bon, on a vu que, par exemple, pour le parc nucléaire français, sachant que la France aujourd'hui, c'est 50% de la production nucléaire européenne, quand la France tombe, c'est une partie de la production d'électricité européenne qui tombe. Quand aujourd'hui, par exemple, tu as une vague de froid assez forte dans les pays scandinaves en mi-janvier, assez forte pour que la Norvège demande de manière précipitée des importations de GNL de la part de d'autres pays européens, parce que ces éoliennes, en fait, ont été quasiment mises à l'arrêt. Et d'ailleurs, les prix de l'électricité étaient montés de 300% en un jour.
Oh, wow.
On a eu la même chose aux États-Unis, mi-janvier. Les prix, par exemple, au Texas, d'électricité, de gaz, sont montés de 400% en un jour, parce que le gaz a totalement supplanté, en fait, la production d'électricité par l'éolien. Alors que pourtant, les éoliennes, ils en ont installé des massivement aux États-Unis. Donc, le solaire, pareil. Le solaire, ça marche que quand il y a le soleil. Si tu n'as pas de soleil, ton solaire, il ne sert à que dalle. L'éolien, après, tu as l'électricité. Pareil, il faut que les températures n'abaissent pas trop bas les niveaux d'eau. Quand il fait trop chaud, les niveaux d'eau baissent. Donc, ta production d'hydroélectricité baisse également. Donc, c'est bien d'avoir du renouvelable, mais on voit les faiblesses de celle-ci. Et surtout, ça marche qu'en fonction des températures et du temps et de potentiellement aléas climatiques, ça peut à tout moment se renverser. Derrière, tu as besoin du coup effectivement énergie fossile qui soit un bas coût et surtout marche dès le début. Gaz, charbon, pétrole, hein, c'est dur de le dire, mais c'est comme ça. Et donc, quand tu as tout ça, en fait, du coup, nous, franchement, je sens. Les importations de GNL, donc à partir de gaz de schiste, certes américain, en hiver 2022, quand la Russie dit on aurait vécu dans le froid et dans le noir, littéralement, quand tu fais les calculs, et il suffit juste de regarder les chiffres de consommation, on aurait vraiment vécu dans le noir et le froid. On n'aurait vraiment pas eu assez de gaz pour les demandes de chauffage pendant l'hiver 2022. Et surtout, on a eu de la chance qu'on ait eu des températures clémentes, comme pareillement pour cet hiver-là. Les températures ont été clémentes. On a eu des petites vagues de froid, des tempêtes, notamment dans l'Europe du Nord et l'Europe de l'Ouest, qui ont touché l'Allemagne et le Royaume-Uni en novembre-décembre. Le froid scandinave en début janvier, on n'a pas eu de température à moins 5, moins 10, ce qui a déjà pu être le cas en 2015, 2016, 2019. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même ce stress de dire est-ce qu'on va avoir assez de gaz, alors qu'avant, la question se posait pas du tout. Donc déjà, tu vois, il y a ce changement psychologique. Et deux, se dire, il faut ce gaz-là, parce que sinon, en fait, ça met en péril à la fois, entre guillemets, le peuple, mais surtout l'industrie européenne. Tu rates juste l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne, elle s'est fait exploser depuis qu'elle n'a plus accès au gaz bon marché russe. L'économie allemande est quasiment tombée en récession. Toute son industrie à forte intensité énergétique, sidérurgie, machine-outils, chimie, automobile, est en train de s'écraser quand tu vois les chiffres PMI manufacturiers. Et actuellement, elle n'arrive toujours pas à s'en remettre. D'où le fait qu'elle maximise le charbon, elle maximise les importations de GNL, parce que, au déprimant des valeurs, tu veux, de la transition énergétique, etc., parce que, en fait, c'est littéralement la vitalité de son économie aujourd'hui qui est mise en jeu.
C'est marrant ce que tu dis, parce que, en fait, du coup, je me dis, puisque c'est mieux pour nous qu'il fasse chaud, parce qu'en fait, comme ça, on a besoin de moins d'énergie pour se chauffer. En fait, on fait mieux de polluer, polluer un maximum.
Ça, dis ça, mais s'il fait trop chaud, le gaz pour la clim. C'est pour ça que l'été, c'est aussi, pour les traders gaz notamment, c'est aussi une période qui est regardée. Parce qu'en cas de trop forte chaleur, besoin de climatisation derrière, besoin de gaz pour alimenter les produits, enfin ceux qui utilisent le gaz pour de l'électricité pour que les clims marchent. Donc tu vois, c'est pour ça que j'utilise le mot température clémente, c'est-à-dire température pas trop chaude, pas trop froide, qu'on arrive à une consommation, on va dire, normale, sans être dans le surplus, etc. Donc ça, en Europe, tu vois, ça fait 2 années de suite qu'on a eu de la chance d'avoir des hivers limite chauds. Tu vois, aujourd'hui, il fait 14-15 degrés. L'hiver, souvent, ça se finit entre le 20 et le 31 mars. Là, en février, bon, bah, on est température à 15 degrés. Franchement, on pouvait sortir en chemise, quoi. Mais la question, c'est est-ce qu'on aura les mêmes chances, bah, pour l'hiver 2024-2025, 2025-2026? Tu vois, c'est toutes ces questions qui se posent là. Et aujourd'hui, bah, quand on sait comment ça peut affecter une économie, comment ça peut affecter toute une industrie, et du coup, bah, derrière, c'est plein d'un effet papillon qui se joue. Parce qu'aujourd'hui, l'Allemagne, bah, c'est un pays qui va attirer moins de capitaux étrangers, qui va attirer moins d'industries étrangères, parce qu'aujourd'hui, l'énergie, le coût d'énergie, bah, ça, c'est le coût d'une entreprise. Le coût de l'électricité, le coût des transports, le coût des entretiens, le coût du stockage, etc. Bah, tout fonctionne à l'énergie. C'est pour ça que, du coup, justement, tu as plein d'entreprises allemandes qui vont délocaliser aux États-Unis et aujourd'hui et en Chine actuellement pour des coûts bas d'énergie. Donc, ils s'en foutent. Même eux, ces entreprises-là, à Volkswagen, Uniper, RWE, je connais pas tous les noms allemands, mais ceux qui sont dans la chimie, de l'automobile, tout ce, comme j'ai dit, de forte intensité énergétique, elles s'en foutent, entre guillemets, de leur valeur nationale. C'est, est-ce que mon entreprise peut vivre ici? Non, ok, je vais ailleurs. C'est tout.
Et c'est marrant parce que je sais qu'on devait parler de la Russie principalement, mais je voudrais rebondir à ce que tu disais par rapport à la Norvège tout à l'heure. Tu disais qu'ils ont eu un moment où les prix ont
Incroyable.
spiké vers le haut. Et genre, eux, justement, c'est des gros exportateurs de pétrole, il me semble.
Oui,
Comment
bah,
ça se fait
la Norvège,
qu'éventuellement?
c'est notre plus grand fournisseur de gaz. Ils ont quasiment remplacé la Russie. Hein. Aujourd'hui, notre consommation de gaz est de près de 300-350 milliards de mètres cubes par an en 2023. La Norvège, elle nous a exporté entre 100 et 110 milliards de mètres cubes. Donc, c'est-à-dire un tiers de la consommation. Et c'est aussi, effectivement, comme tu l'as très bien dit, un gros producteur de pétrole, car elle a des énormes gisements en fait en mer du Nord. En fait,
Et c'est ça,
la
alors,
Norvège est très bien placée. La Norvège est extrêmement bien placée.
du coup, vu que c'est un élément important dans ce qu'on pourrait appeler donc la sécurité énergétique de l'Europe, comment ça se fait que eux, ils ont été en galère à un moment donné, parce que eux, ils sont censés avoir énergie infinie, tu vois? Comment ça se fait qu'à un moment donné, ils ont eu des difficultés eux-mêmes alors que c'est des exportateurs, en fait, tu vois?
Bah, ils ont eu moins de difficultés que nous. Hein. Les pays scandinaves ont eu moins de difficultés que nous. Mais si tu veux, c'est aussi des pays qui importaient beaucoup de Russie. Et eux aussi, ils étaient dans une logique de transition énergétique. Donc, tu investis moins dans tes gisements pétroliers et gaziers. Du coup, ils sont beaucoup moins entretenus. Mais du coup, c'est-à-dire que tu veux relancer cette production-là, bah, c'est de l'investissement financier, c'est beaucoup d'ingénierie financière, c'est. Enfin, ingénierie financière. D'ingénierie dans l'énergie, il faut rappeler les entreprises de services pétroliers et gaziers. Enfin, pour relancer un puits de gaz en puits de pétrole, vraiment, ça peut se contenir en nombre de mois pour que ça se relance. Donc, eux, si tu veux, entre l'alliance de OK, on fait des politiques de transition énergétique, il y a cette dépendance partielle, on va dire, au gaz russe, du coup, la production nationale était mise à bas. Pas mal mise à bas, et c'est toujours actuel. Hein. Ils ont certes des gros gisements, mais ils ont juste dû tout réactiver pour nous. Mais sinon, quand tu compares juste les PIB pour 2022-2023 de l'Europe du Nord comparé à l'Europe de l'Ouest, il y a quand même un certain gap, tu vois. Ils ont beaucoup moins subi la crise énergétique que nous, on a vécue. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vois, par exemple, les projets comme Equinor en Norvège, c'est le Total le norvégien, et d'autres entreprises en Suède ou Danemark, ben aujourd'hui, leurs projets ne se sont pas à la fois arrêtés, mais surtout, c'est des entreprises qui n'ont pas délocalisé à l'étranger. Tu vois,
Et alors,
c'est
c'est
même
mort.
des entreprises étrangères qui vont dans ces pays, aujourd'hui, dans les pays scandinaves pour faire des projets dans le monde énergétique.
Ouais, donc en fait, c'est marrant parce que si on fait la synthèse de tout ça, j'ai l'impression que le défi, en tout cas, qui est en train de se. En tout cas, le truc qui est en train de se jouer, de se construire, c'est l'agilité, en fait. C'est genre.
Exactement, c'est exactement ça, tu l'as très bien dit. C'est nous, en tout cas aujourd'hui, enfin nous, l'Europe, on va dire. Notre but, c'était un traumatisme 2022 parce que, alors, je dis ça, traumatisme, sachant qu'il y avait 150 000 signes dans l'histoire que ça pouvait arriver. Juste, on était extrêmement cupide du gaz russe à bon marché. Hein. On peut dire toutes les armes qu'on veut. On était à deux doigts avec le Nord Stream 2, qui également devait rejoindre les gisements Yamal en Russie à à l'Allemagne. Donc c'était une autre capacité de 55 milliards qui se rajoutait. Du coup, en 2021, notre consommation était de 400 milliards de mètres cubes par an. Si tous les projets russes marchaient à 100%, la Russie, c'était 50% de notre consommation annuelle de pétrole en 2021. De gaz, pardon, 2021. Donc, c'est pour dire à quel point on était avide de ce gaz bon marché. On était avide. On avait quasiment 5 pipelines qui nous rejoignaient. Par la Pologne, par la Turquie, par l'Ukraine, et 2 qui allaient directement en Allemagne. Et ensuite, l'Allemagne, nous exportait ce gaz à la Belgique, à la France, à l'Espagne, aux Pays-Bas, etc. À la Pologne, enfin bref. Donc aujourd'hui, c'est, comme tu l'as très bien dit, c'est l'agilité. C'est OK, on peut perdre ça, OK, comment on peut compenser? Donc c'est diversifier ses clients, c'est augmenter la production nationale, c'est augmenter ses stocks. On est toujours dans une logique de sobriété énergétique. Hein. En fait, aujourd'hui, même si pour nous c'est moins le cas en termes de ménage, aujourd'hui, l'Europe vraiment pousse les entreprises aujourd'hui à adopter des processus d'efficience énergétique, de beaucoup moins consommer d'énergie. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Et derrière, tu as l'installation des renouvelables. Donc, en 2023, tu as plus de 100 gigawattheures qui sont revenus dans le parc nucléaire français. Tu as eu plus de 54 gigawattheures d'installation solaire, 60 gigawattheures d'installation éolien. Tu as les pompes à chaleur. Donc, aujourd'hui, on compense aussi par ça. C'est le renouvelable. C'est vrai qu'on pourrait le dire, en Europe, on essaie d'être le leader à ce niveau-là. Donc, c'est comme tu l'as, l'agilité, elle va se jouer par là. La diversification, la production, l'efficience énergétique et l'installation de renouvelables.
Et justement, alors du coup, on est du coup encore pas tout à fait genre, centré sur la Russie, mais la question que j'ai envie de poser, c'est j'ai l'impression qu'on est, on est tous un petit peu à flux tendu au niveau de la gestion de l'énergie pour le moment. Mais est-ce que tu penses que, justement, par tout ce que tu viens de dire, toute la situation qu'on vient de décrire, l'avenir est plus... est-ce qu'on peut être optimiste dans le sens où... est-ce que tu penses que c'est une phase et qu'on est en transition vers un monde où on est justement... Où ça va être... Justement, on va pouvoir être plus agile. C'est-à-dire, il y aura de plus en plus de routes. Et ce sera plus une concurrence des prix plutôt que genre un besoin vital à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire?
Je pense honnêtement qu'on tend à aller vers là-bas. Comme tu l'as dit, aujourd'hui dans le monde des infrastructures, les infrastructures qui prennent le plus de proportions, c'est les infrastructures énergétiques, pipelines, gaz et oduc, notamment pour pétrole et gaz. Donc tout type de gaz, tout type de pétrole, hein, notamment en Asie centrale, dans les pays comme l'Afghanistan, la Chine, la Russie, comme je l'ai dit, t'as l'Europe aujourd'hui qui installe beaucoup de méthane, enfin d'usines de liquéfaction pour justement liquéfier le gaz qui arrive des pays extérieurs. Donc je pense que sincèrement, on arrive dans un monde où effectivement, alors là tu l'as très bien dit, c'est surtout une concurrence des prix. Parce qu'aujourd'hui, les tensions géopolitiques, je pense qu'il y en aura toujours. Des guerres, j'espère pas, mais potentiellement. Mais des dépendances, tu vois, à un, deux pays, c'est plus le cas. Parce que si tu veux, quand il y a une crise qui arrive dans un point X, les autres points dans le monde, en fait, regardent cette crise et apprennent des erreurs. Aujourd'hui, la Chine, elle regarde, Eder Herrer l'avait très bien dit, regarde de près la situation énergétique, notamment, entre l'Europe et la Russie. Et c'est très bien qu'elle ne veut pas dépendre entièrement de la Russie, malgré le Power Siberia 1, le Power Siberia 2, et un autre aussi gazéoduc qui passera par l'Ouzbékistan et le Turkménistan, qui n'a pas de nom, d'ailleurs, ça s'appelle juste le gazéoduc Extrême-Orient, qui a pour objectif d'exporter 10 milliards de mètres cubes par an. Elle sait qu'il ne faut pas trop dépendre de la Russie, donc c'est pour ça qu'elle a aussi des projets en interne avec les pays d'Asie centrale, pardon, comme j'ai dit, Ouzbékistan et Turkménistan notamment, parce que c'est là-bas qu'il y a des réserves de gaz. Il y a aussi derrière les contrats GNL, les contrats GNL long terme, sur 25 à 27 ans, notamment avec le Qatar, qui allait réaliser, parce qu'aujourd'hui, le Qatar, c'est le deuxième plus gros exploitateur de GNL dans le monde. Et la Russie, aujourd'hui, elle sait que sa sécurité énergétique, elle passe certes par la Russie, certes par les centrales, mais surtout par le Moyen-Orient. En pétrole et gaz, c'est les plus grandes, enfin, c'est là-bas qu'il y a les plus grandes, si on prend l'ensemble des pays, les plus grandes réserves mondiales de pétrole et gaz à ce niveau-là. Donc, tu veux, tous les pays apprennent des erreurs des autres, et donc, cette diversification, tout le monde va l'appliquer, comme tu l'as très bien dit, et donc, après, ça va être les prix. Si des tensions géopolitiques comme aujourd'hui, par exemple en mer Rouge, dans quelle partie du monde, dans quelle route les prix peuvent être affectés. Parce que derrière, quand tu as des tensions géopolitiques, notamment maritimes, bah, tu as les frais de fret qui augmentent, les frais de transport, les frais de carburant, les frais d'assurance. Donc derrière, il faut avoir aussi cette agilité, on va dire, financière pour, bah, quand tu es en besoin d'énergie et qu'il y a des tensions géopolitiques, est-ce que tu as l'agilité financière pour, bah, on va dire, surenchérir pour avoir ta quantité à toi, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, en Europe, comme je l'avais dit au départ, on est déficitaire structurellement en produits raffinés pétroliers. Et aujourd'hui, l'Inde, par exemple, exporte beaucoup moins, et l'Arabie Saoudite également, beaucoup moins vers l'Europe de diesel, et exporte du coup de plus en plus vers, par exemple, le Pakistan, Singapour et la Chine, parce que, en fait, le gain derrière vers l'Europe devient extrêmement minime, parce que derrière, l'Inde va devoir payer, supporter les frais de fret, supporter les frais d'assurance, supporter les frais de carburant, et à la fin, sa marge, elle est très minime. Et du coup, tu as des exportations qui partent vers l'Asie, et derrière, du coup, l'Europe importe de plus en plus vers des États-Unis et de Norvège, du coup, ce qu'on appelle le bassin Atlantique. Donc, tu vois, tu as toute cette gymnastique qui, en fait, qui peut se passer à tout moment, que ce soit des tensions terrestres ou maritimes, qui font que, bah, tu as des coûts qui se rajoutent, et du coup, bah, tu dois avoir cette agilité de pouvoir importer ou exporter vers des pays alliés en cas de besoin, comme aujourd'hui, c'est le cas de l'Europe pour le diesel notamment.
Ok. Et du coup, la Russie, elle joue quel rôle là-dedans? C'est quoi la place qu'elle a comment dire ça? Genre, bon, alors maintenant, on sait que, par exemple, l'Europe dépend moins de la Russie qu'avant. Oui. Mais est-ce qu'elle a encore c'est quoi sa place? Est-ce que c'est encore une place prépondérante dans les importations européennes? Est-ce qu'elle réussit à équilibrer ses comptes par rapport à avant les restrictions, quoi?
Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, en 2023, on a importé 50 milliards de mètres cubes par an de Russie. Donc, on est à peu près, voilà, 25 milliards de GNL, 25 milliards de gazéoducs. Les gazéoducs, notamment le transiteur ukrainien, en fait, le contrat qui est entre Gazprom et l'Ukraine s'expire en 2024. Donc, aujourd'hui, il y a la question de est-ce que c'est un contrat qui va se renégocier ou s'arrêter. Donc, ça veut dire qu'on n'aurait plus les 15 milliards de mètres cubes qui passent par l'Ukraine. On n'aurait que par la Turquie. La Turquie, pareil. Bon, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que la Turquie et la Russie s'entendent bien, on va dire cordialement. Donc, les contrats entre les deux pays devraient se renégocier quand ça s'arrêtera. Le GNL, ça reste quand même 24 milliards de mètres cubes par an. Et si on les perd, aujourd'hui, l'offre de GNL ne va réaugmenter que dans les années entre 2025 et 2027, notamment de la part des États-Unis et du Qatar.
Donc, c'est quoi si le... Ça 2000... Oui, pardon, vas-y, continue.
Ouais. Oh. Si ça s'arrête en 2024... Ça pourrait être problématique pour l'Europe, mais sauf qu'aujourd'hui, la Russie, elle sait que c'est aussi c'est bien d'avoir toujours, on va dire, des parts dans l'Europe en cas de nouvelles négociations post-guerre, post-conflit. C'est toujours bien de ne pas être dans le terme coupé du commerce avec le pays en question. Et deux, c'est aussi un moyen financier pour la Russie. La Russie, par an, elle en termes de GNL, hein, sa capacité est entre 41 et 45 milliards de mètres cubes par an. Et aujourd'hui, bah, l'Europe, c'est la moitié. Donc, ce n'est pas rien aujourd'hui pour son marché du GNL en Russie. Après, pour la balance, on va dire, pas du tout. Si tu veux, la Russie, en 2023, pipeline plus GNL, c'est 142 milliards de mètres cubes d'exportation. En 2021, c'était 244 milliards. Pardon. Donc, tu as un marché, en fait, qui a sauté. Qui a quasiment sauté. Au total, elle exportait vers nous en 2021. Oh non, à son pic, c'est 2019, c'était 190 milliards de mètres cubes par an. aujourd'hui, la Russie a pipeline plusiannuel, c'est 50 milliards. Donc, elle a quasiment perdu entièrement le marché européen. Et malgré qu'elle tourne vers l'Est, ça va prendre du temps avant qu'elle puisse retrouver une sorte d'équilibre. Parce que même si elle 38 milliards du port sibérien 1, 50 milliards du port sibérien 2, donc on est à 98 milliards, 10 milliards de l'Extrême-Orient, on est à 108 milliards, tu as perdu 150 milliards avec l'Europe. Donc aujourd'hui, tu as des discussions également avec l'Inde et le Pakistan pour rejoindre un projet de gazéoduc qui relierait Turkménistan, Afghanistan, Pakistan et Inde. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un projet qui n'avance pas pour des raisons de viabilité économique et de zones instables en Afghanistan notamment. Tu as aussi des discussions avec l'Iran, des décisions d'approvisionnement mutuel entre les deux pays. Donc on parle d'un volume annuel d'environ 10 milliards de mètres cubes par an. Mais aujourd'hui, pareillement, il n'y a pas de grandes avancées, il n'y a pas de tronçons de gaz qui sont avancés. Donc tu veux, aujourd'hui, ses principaux clients, la Russie, c'est encore un peu l'Europe, c'est développement avec la Chine, c'est environ 30-40 milliards de mètres cubes par an qui passent en Asie centrale notamment. Par contre, pour l'avenir, je pense qu'après ce sera un peu la fin pour la Russie, d'ici 2030, elle a quatre grands projets qui sont en préparation. J'avais dit au début l'article LNG2, donc ça. On a l'UST Luga, on a le GNL de Mors-Manc et on a le projet OBLNG. Donc c'est que des projets GNL et qui, si ils fonctionnent tous et sont valides tous d'ici 2030, devraient rajouter à la Russie 80 milliards de mètres cubes de capacité d'exportation en plus des 40 milliards environ qu'il y a aujourd'hui.
La Russie, ils sont all-in sur l'exportation de l'énergie. En fait,
c'est, comme je dis, c'est 60% de son budget fédéral, l'énergie, donc pétrole et gaz. Ces grosses industries aujourd'hui de la Russie, hormis l'armement, en partie l'aérospatiale, ça reste l'énergie. C'est l'énergie qui rapporte le plus de fric. De toute façon, c'est le pays qui a les deuxièmes plus grandes réserves de gaz au monde et dans la troisième ou quatrième plus grande réserve de pétrole au monde. Donc en fait, et elle sait qu'elle peut en utiliser parce que surtout sa force, c'est d'avoir d'énergie bon marché parce qu'elle produit tout nationalement. Ce qui va être contraignant donc dans tous ces futurs grands projets, c'est le manque de technologie occidentale, notamment pour tout ce qui est de technique de fracturation hydraulique, creuser les puits très profonds, la partie géologique, la partie géospatiale, tout ça, c'était des technologies occidentales. Aujourd'hui, dans les 10 plus grandes, pendant les 10 premières entreprises mondiales de services pétroliers dans le monde, tu en as 9 qui sont occidentales, tu en as une qui est chinoise, qui s'appelle COSTL. Le reste est occidental. Donc ça, aujourd'hui, ça, derrière, tu as les sanctions qui sont contraignantes, et tu as un peu cette partie aussi logistique qui est contraignante à cause des sanctions, justement, parce que du coup, les États-Unis sanctionnent quasiment toutes les entreprises de transport pour toute la flotte de marchandises pour exporter l'énergie russe. Et aujourd'hui, ils sont en train de se faire sanctionner une par une. Donc aujourd'hui, pour la Russie, ça va être la question, c'est est-ce que la Chine va venir à la rescousse ou pas. Mais ce qui est sûr pour moi, en tout cas, c'est qu'en termes de revenus, ça va être beaucoup plus faible que ce qu'elle avait gagné avec l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, ses clients savent que la Russie, est dépendante d'eux. Donc ils pourront jouer sur les prix. Et en termes de quantité, ce sera beaucoup moindre qu'en Europe pendant encore de nombreuses années. Donc en termes de quantité, ça pourrait compenser d'ici 2030-2035, mais en termes de revenus, ça va drastiquement baisser.
Mais tu vois, c'est marrant parce qu'en fait, finalement, cette histoire de guerre en Ukraine qui a forcé la Russie à... parce qu'en fait, les projets de développement des routes d'acheminement de l'énergie étaient déjà en cours avant la guerre en Ukraine. Donc finalement, peut-être que je dis une connerie, mais peut-être que ça a forcé la Russie à... Comment dire ? Genre à faire de sorte à ce que juste à développer ses relations vers d'autres pays qui avant avec lesquels elle n'avait pas forcément des accords plus avantageux que maintenant, et que quand la situation va s'améliorer, parce que j'imagine qu'à un moment donné, la situation va s'améliorer, bah peut-être qu'ils vont grave performer, en fait. Parce qu'ils vont retrouver tous les marchés.
C'est possible. Encore une fois, clairement, c'est des questions de politique. Hein. C'est que pendant la fin de la guerre, s'il y a une fin un jour, comment vont se repasser les négociations? Est-ce qu'on va pouvoir réinvestir en Russie? Est-ce qu'on va pouvoir reparticiper leur projet énergétique? Parce que c'est nous aussi, pour nous, hein, les Shell, les BP, les Total, c'est des gros moyens financiers, c'est des grosses ressources financières, les projets énergétiques russes. Donc est-ce qu'on va revenir là-bas? Est-ce qu'on va pouvoir réimporter? Est-ce qu'on va réouvrir nos marchés? On ne sait pas, peut-être. Et peut-être qu'il va y avoir d'autres événements géopolitiques dans le monde entier qui vont faire que ça va ouvrir d'autres marchés. Mais aujourd'hui, la Russie, entre sa production nationale, son prix abordable, donc le prix bon marché, du coup, qui permettent justement d'éviter de subir la volatilité des prix, une technologie de liquéfaction qui va devenir nationale, des assurances qui ne seront plus dépendantes des assurances occidentales, mais des assurances, par exemple, russes, indiennes, chinoises, ça va peut-être faire en sorte qu'à la fin, notamment le gaz, ils deviennent vraiment compétitifs sur les prix du marché, tu vois. C'est derrière, elle arrive vraiment, en fait, à créer un écosystème national avec des alliés. Ça se peut qu'à la fin, elle arrive à produire un gaz qui est beaucoup plus compétitif que le gaz norvégien ou le gaz américain ou le gaz de Mozambique, et qu'elle prenne des parts de marché, parce que ce sera la loi du plus fort, tu vois. Donc, je pose pas de spéculation, on verra, parce que c'est beaucoup de... Là, du coup, on rentre carrément dans des discussions politiques, de guerre, de diplomatie, etc. Ça, on verra, mais c'est... ils ne feraient pas tous ces projets-là si eux-mêmes étaient conscients qu'ils n'avaient pas encore du potentiel. Ils ont du potentiel. Après, c'est comment l'ensemble des pays va un peu choisir son camp, tu vois.
Ouais. J'en profite pour dire que parmi ceux qui sont là, si vous voulez poser des questions, si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, si vous voulez dire des choses ou quoi, n'hésitez pas à me demander le rôle de speaker, je vous le donne sans problème, aucun problème là-dessus. Alors, qu'est-ce que je voulais poser comme question? Je ne sais plus, j'ai complètement perdu le fil. Je crois que c'était par rapport à la technologie, mais j'ai perdu le fil. Voilà, super. toi, est-ce que tu as un autre aspect justement de la gestion de l'énergie russe que tu voulais aborder, qu'on n'a pas abordé jusqu'à maintenant, parce que je t'ai orienté un peu vers toutes sortes de points, mais je ne sais pas si on a... Il y a des trucs... Je sais que tu m'avais parlé d'un certain nombre de choses que tu avais étudiées, mais que je ne sais pas si on a abordé tout.
Très bonne question. là je pourrais pas, enfin là j'ai pas de truc en tête. Après, bon, on pourrait prendre les détails de certains trucs, mais bon, après ça devient infini, ce sujet là enfin surtout le sujet,
parce que ouais, sinon j'étais en train de regarder un petit peu dans mes notes, mais en même temps il y a forcément le sujet du réchauffement climatique et de ce que comment ça affecte la production et le comment dire, l'acheminement de l'énergie, mais ça c'est vraiment un sujet
je n'aurais rien à dire, j'y connais rien.
C'est pas du tout mon
de compétence.
J'ai vu que aussi que la Russie exporte du charbon, ça je savais même pas qu'ils exportaient du charbon.
En Russie, dis-toi, en termes de ressources hydrocarbures dans le monde, c'est là où il y en a le plus. C'est juste dire ça, charbon, pétrole, gaz, c'est le territoire dans le monde où il y a le plus de ressources à ce niveau-là. Elles ne sont pas toutes exploitées, parce que des fois, il y a des territoires où c'est plus profond, c'est plus compliqué, etc. Et ça demande de la technologie, des financements beaucoup plus élevés et de la main-d'œuvre beaucoup plus qualifiée. Mais ça, c'est franchement la Russie. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont entre guillemets en autarcie. C'est qu'ils ont en autarcie d'un point de vue énergétique, parce qu'ils ont tout en fait. Ils ont tout sur leur territoire. Et c'est pour ça qu'ils peuvent produire à bon marché également aussi.
Le seul truc qu'ils n'ont pas, enfin qu'ils ont moins que beaucoup de pays, c'est l'accès à la mer. Je sais pas trop comment ça se passe, parce que c'est peut-être pour ça qu'ils...
C'est la mer Arctique qu'ils utilisent beaucoup et qui aujourd'hui rentre en conflit avec les États-Unis, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui la Russie essaye de, pas militariser, mais d'en faire une zone vraiment géopolitique pour ses exportations d'énergie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans l'Arctique, ça devient aussi un enjeu énergétique parce que ça regorge de terres rares. Donc, tu as la Chine aussi qui est fortement intéressée. Tu as les pays scandinaves en Europe. Du coup, tu as les États-Unis derrière. Donc, ça, en fait, c'est pour ça que derrière la Russie, il n'y a que cette mer, entre guillemets, où elle a accès. Et c'est pour ça qu'elle construit beaucoup de gazéoducs, en fait. C'est pour ça que ce soit vers l'Europe, aujourd'hui vers la Chine, vers l'Iran, vers l'Asie centrale, ça passe beaucoup par des gazéoducs parce que, comme tu l'as dit, elle n'a pas un grand accès aux grandes mers, que ce soit à la mer Noire. Enfin, il y a l'accès à la mer Baltique, un peu par les pays Balkans. Mais voilà, l'océan Atlantique, l'océan Indien, bah, il n'y a pas accès directement, en tout cas.
Ouais, c'est ça, je regarde la map monde là. C'est compliqué. Ils sont obligés de passer par le nord. C'est ça, comme tu viens de dire. Et en fait,
Ouais, c'est ça.
après, bah voilà quoi. Il y a donc du coup bah, la mer Noire. Du coup, ça justifie un peu la volonté de reprendre le contrôle du Donbass et puis la Crimée un petit peu plus tôt.
Après, la mer Noire, elle peut descendre dans la mer Rouge, comme on voit actuellement. Et du coup, si d'ailleurs permet d'exporter son pétrole et vers les pays asiatiques.
La mer Rouge, où est-ce que c'est ça déjà?
C'est bah, vers le Yémen, l'Iran. C'est tout en bas du Yémen, en fait.
Est-ce que... Putain, je suis vraiment mauvais. Attends, je regarde sur la map. Est-ce que la mer Rouge, c'est l'espèce de truc fermé là où il y a l'Azerbaïdjan et tout ça?
Non. Enfin, c'est pas très très loin, mais on n'est pas trop là.
Ok.
Vraiment, tu prends Yémen, t'as la mer Rouge, en fait.
Ah, mer Rouge, c'est là. Ok, d'accord. Okay. Ah, ils ont accès. Ok, d'accord.
Et
Mais
aujourd'hui,
c'est pas le.
les tankers pétroliers russes passent par là pour exporter de leur pétrole vers l'Inde et la Chine.
Ok, j'imagine. Bah, ils passent par la mer Noire, ensuite ils passent genre au bord de
C'est
la
ça.
Turquie, et puis ils
C'est ça,
vont
c'est ça. Mer Noire, mer Rouge.
le meilleur endroit. Il n'y a jamais de conflit là-bas. C'est super
Bah
bien.
eux, ils sont bien. Aujourd'hui, justement, les tankers russes aujourd'hui passent entre guillemets sans souci parce que bah, c'est des pays entre guillemets alliés, si je peux dire le terme. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, les seuls tankers qui passent par la mer Rouge actuellement, c'est les tankers du Moyen-Orient et de la Russie.
Ok, ouais.
Enfin, quand je dis c'est pas facile, c'est qu'ils sont pas attaqués, quoi.
Ouais. Ok.
Donc, voilà, voilà.
Ok. Bon, bah
J'avoue que
écoute.
je n'ai pas d'idée en plus à rajouter.
Ouais, moi c'est pareil. En fait, je trouvais ça super intéressant. C'était vraiment super intéressant. Bon, après, moi, j'ai pas une connaissance très poussée de la géographie russe et tout. Pour la source que tu as mentionnée plusieurs fois et à laquelle j'ai fait référence en tout début d'émission par rapport au Power Siberia 2, c'est Yamal, c'est ça, ou Yama?
Yamal.
Yamal, ça c'est un truc que les gens connaissent peut-être pas, c'est genre une espèce de péninsule dans le nord de la Russie, juste en dessous d'un truc, d'ailleurs, une espèce de trucs qui s'appellent Nouvelle-Zimblée. Bref, dans la mer de Kara. Voilà, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est proche du nord.
Oui, c'est
C'est vrai
ça,
que
c'est ça.
c'est des endroits qu'on regarde jamais. Si vous regardez sur la map, c'est gigantesque. Et il y a toutes sortes de terres, tu vois, des terres, des trucs que j'ai jamais entendu parler avant dans l'histoire de ma vie. Un truc qui s'appelle Svalbard. Et
Ouais,
c'est
après les
des.
noms, moi j'arrive pas à les prononcer. Hein. Je laisse les russophones le faire, mais.
Et si tu passes au-dessus de l'Europe, en fait, tu as toutes sortes de trucs, tu as des espèces de terres isolées, complètement gelées. Et entre, bah, tu as la Russie, et puis ensuite, tu as ces terres-là, et ensuite, tu as le Groenland directement.
C'est
Et
ça.
ouais, c'est fou. Ouais. En tout cas, ouais. C'était super intéressant. J'ai adoré cet épisode.
Ah bah, c'est un plaisir. Hein.
Ouais, et puis si jamais il y en a parmi vous qui veulent. Bah, qui veulent qu'on aborde un sujet en particulier, genre qu'on aille plus en détail sur ce qu'on vient de dire ce soir ou sur, je sais pas, n'importe quoi d'autre. Par exemple, un autre pays, ou
Oui.
alors un autre continent carrément, genre l'Afrique, ou alors l'Australie, je sais
Vous
pas.
pouvez de me DM ou DM Chad
Ouais, c'est ça.
et on s'en occupera.
Exactement. Et puis, bah, merci encore pour cet épisode, c'était super intéressant comme d'habitude.
Avec plaisir.
pour tous ceux qui sont, bah, en fait, j'allais dire tous ceux qui sont pas là, mais en fait, tous ceux qui sont là d'habitude et ceux qui sont pas là d'habitude, si vous aimez un petit peu ce genre de discussion, bah, revenez tous les jeudis. On a une discussion géopolitique, géoéconomie, toutes les semaines, tous les jeudis. Et puis, dimanche, peut-être qu'on va avoir une discussion sur Bitcoin, si tout se passe bien, et avec une intro, une chronique de Gab, et le retour de Gab. Et puis ensuite, c'est ça. Et ensuite, lundi, on va avoir la fameuse émission qu'on devait avoir il y a 2 semaines avec Aude de Kéros, qui est une écrivaine qui a écrit beaucoup de choses sur l'art contemporain. Et voilà, on va essayer de... J'espère que ça va marcher cette fois-ci, parce qu'il y a 2 semaines, ça n'a pas fonctionné. donc voilà.
Juste un petit mot, du coup, je l'avais dit par vocal, mais du coup, je ne serai pas là jeudi prochain parce que je suis à Genève pour un des entretiens. Et voilà, moi, je serai là dans 2 semaines.
Bah, aucun problème. Bon courage pour tes entretiens. C'est des entretiens pour
de stage de fin d'études, hein, pour être énergie analyste.
Ok, c'est cool. Et ce sera là-bas, en Suisse.
Oui, je dois y aller sur place. Donc, voilà.
Ah, c'est stylé. Bon courage pour toi. J'espère que ça va marcher. Et puis, on va faire un truc. Je ne sais pas quoi encore, mais on va faire un truc. Et puis, c'est ça. Et puis, bon courage pour toi. Et voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés d'avoir des nouveaux sujets ou quoi, bah, dites-nous. Et puis, on verra ce qu'on fera donc, du coup, pour, dans 2 semaines. Je propose qu'on se quitte là-dessus. Et je vais mettre une musique de fin. Alors, attendez, qu'est-ce que je vais mettre? Parce que j'avais mis en introduction Death Grips. Je vais essayer de mettre autre chose. Vas-y, je vais mettre un truc au hasard de Death Grips. Vas-y, c'est parti. Et bonne soirée à tous, bonne nuit, soirée. Et puis bon week-end. Et puis à dimanche. Salut.
Salut.
Take my time going to work. I got a motorcycle and a sleeping bag. And 10 or 15 girls, what the hell I want to go off and go to work for? Work for what? Money? I've got all the money in the world. I'm a king, man. I run the underworld, I decide who's does what and where they do it at. When am I going to run around and act like I'm some teeny bopper somewhere for somebody else's money? I make the money, man. I roll the nickels. The game is mine. I deal the cards. Worship death, blood, blood, night, I'm stuck with breath, exhale, I smell from the endlessness.